Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On est avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie, qui sera avec nous vers 14h15 tous les mercredis. Salut, Elsie.
Bonjour, Geneviève.
Écoute, tu écrivais aujourd'hui à propos de la gestion de crise du gouvernement Legault et je crois qu'on a un peu tous et toutes joué au gérant d'estrade depuis le début de la pandémie. C'est facile d'être assis dans son siège et de commenter. Et toi, tu te posais la question, comment juger ce gouvernement-là un an après le début de la pandémie, parce qu'on a célébré ce triste anniversaire-là là, cette semaine?
Exactement. Donc, ça fait un an qu'on est embourbé dans cette pandémie. Puis, bon, évidemment, on a appris tous les jours comment gérer le tout. Et effectivement, comme tu mentionnes, on a tous une opinion. Évidemment, même moi, là, tu sais, j'ai commenté les tests rapides qu'on devrait utiliser, le port du masque qui n'est pas venu assez vite, les étudiants de cégep d'université qu'on a laissé tomber. Mais globalement, le premier ministre faisait sa tournée là, des médias en fin de semaine. Puis quand on regarde les appuis des Québécois face à la gestion de crise du gouvernement de François Legault et de François Legault lui-même, mais force est de constater que les Québécois sont extrêmement satisfaits de sa gestion de la pandémie, même si on répète tout le temps qu'on a le pire bilan au Canada avec les 10 000 morts. Malgré tout, les Québécois restent satisfaits dans des proportions impressionnantes, là, t'sais, près de 75%. Des Québécois francophones sont satisfaits de la gestion de François Legault. Et aujourd'hui, ben, dans les derniers jours, il y avait un dernier sondage léger qui montrait que l'appui au Québec est de 73% à l'égard des mesures prises par le gouvernement, alors qu'en Colombie-Britannique, c'est 65%, en Ontario, 51%, au Manitoba, 47%, en Alberta, 40%. Et donc, François Legault cartonne avec un 73%. Donc,
Mais cartonne pourquoi? Parce que, bon, il y a plusieurs affaires là-dedans. Moi, j'entendais le premier ministre en fin de semaine, pour ainsi dire qu'il restait un bilan assez positif de la gestion de crise. Mais bon, on a quand même des chiffres assez affreux si on se compare. Puis je comprends que se comparer, c'est toujours un jeu assez dangereux, là. Sauf qu'à un moment donné, les chiffres sont quand même là. Tu sais, est-ce que les gens l'aiment, Legault, à cause de ses décisions, ou les gens l'aiment parce qu'ils ont l'impression qu'il est en contrôle de la situation? Parce qu'au niveau des communications, là, ce premier ministre-là, quand même, est assez fort. Moi, je trouve que quand il parle aux gens, c'est clair, c'est rassurant. En plus, il y a de la misère à dire c'est difficile. Donc, on s'identifie à lui. T'sais, on le trouve sympathique, on l'appelle Papa Legault, mais je pense que une bonne partie de sa popularité s'explique par rapport à la façon dont il s'adresse aux gens.
C'est clair que ça, c'est une des parties là, très, très importantes, effectivement. Puis je pense qu'il faut lui donner ça tout au long de la crise. Il s'est montré présent avec ses points de presse presque à tous les jours, là, pendant des mois au début. Puis encore maintenant, là, chaque semaine, il est présent. Sa façon de s'exprimer, c'est certain qu'il vient toucher la population. Mais tu sais, il faut se rappeler d'où on part. T'sais, on part d'un 15 ans. Puis c'est sûr que c'est délicat, puis personne ne va en parler parce que, bon, le passé. Mais reste que le niveau de confiance envers le gouvernement précédent, libéral, était à l'inverse. Donc, il y avait près de 70% de gens insatisfaits. Donc, les gens n'avaient pas confiance en la gouvernance libérale parce qu'il y a eu plusieurs scandales. Et c'est certain que François Legault bénéficie de ça. Donc, moi, je considère que effectivement, il est comme le bon père de famille. Puis même s'il fait des erreurs, donc les gens reconnaissent qu'il fait des erreurs, mais ils ont le sentiment profond qui prend ses décisions pour le bien commun, pour le bien de la population.
Il parle beaucoup de transparence.
Et non pas en fonction d'intérêt, là.
Mais c'est ça. Il parle beaucoup de transparence. On sait que dans le dossier de l'éducation, ça a été particulièrement difficile pour Jean-François Roberge. Pas toujours senti que le premier ministre appuyait nécessairement tant que ça. Ses ministres se dégageaient beaucoup par moment. Hésitaient à le sortir aussi. Il y a eu aussi beaucoup de tensions avec Horacio Arruda. Ça se voyait à l'écran. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de transparence, mais qu'on n'est pas si transparent, là, notamment quand on a su que les décisions n'étaient pas toujours surprise en fonction de la santé publique. Moi, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait eu des répercussions sur la cote de popularité de M. Legault.
Effectivement, c'est sûr que dans les prochains mois, en plus, c'est ça, avec les rapports du vérificateur général, les dossiers commencent à sortir, c'est sûr qu'on va avoir un regard différent. Mais moi, je me disais, quand j'ai écrit ce texte-là, je me disais, bon, là, on est à un an, M. Legault va recevoir des casseroles, puis tu sais, des chaudrons dans le visage dans les prochains mois, mais à ce moment-ci, je pense qu'il a fait un bon travail. Puis globalement, ben les Québécois surtout, c'est ça qui est important, c'est que les Québécois, eux, sont satisfaits. Puis c'est vraiment paradoxal de voir effectivement, comme tu mentionnes, c'est sûr que monsieur le ministre Roberge, puis bon, d'autres ministres, on se demande des fois, tu sais,
Madame Blais,
c'est épouvantable. Puis même elle, monsieur Legault, de par son aura et sa confiance, il réussit presque à la faire accepter au bon peuple. Mais tout ça pour dire que reste que lui. Il est là pour les bonnes affaires. T'sais, on a le sentiment qu'on peut lui faire confiance, puis qu'il veut brasser la cage. Puis s'il a pas réussi, c'est parce que il avait pas les outils. Puis ça, tu sais, je pense qu'il a réussi aussi à. Je sais pas si c'est lui qui a réussi, mais les Québécois sont conscients qu'on est entré dans cette guerre-là avec un réseau de la santé en lambeaux, avec des CHSLD. Tu sais, on le disait, je relisais des textes il y a un an et demi, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tous ces gens-là demandaient, tu sais, en négociation de conventions collectives, donc augmentation des salaires, le nombre d'heures, le temps supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui était comme déjà sur la table, et la crise a juste fait exploser tout, puis on voit à quel point on était dans une situation catastrophique, et donc on peut penser que les morts sont causées par ce système-là qui était inadéquat. Tu sais, dans les années passées, il y a eu des coupures à la santé publique importante. Donc, Legault est arrivé en poste, il a tenté tant bien que mal de rajouter quelques millions, mais c'était pas assez. Donc, on est entré en guerre avec une armée pas mal affaiblie.
Ben oui,
et les Québécois lui rendent pas rigueur.
Ils peuvent pas tout réparer non plus ce qui a été détruit pendant des années.
Je voulais juste dire une statistique très importante aussi, c'est que qui m'a fait sursauter, c'est que on parle des aînés. Mais dans le dernier sondage Léger, les aînés donnent à la CAQ une majorité de 37% de plus que les autres groupes d'âge. Donc, chez les aînés, donc ceux qui sont finalement les plus vulnérables dans cette pandémie-là, appuient davantage le gouvernement de François Legault. Donc, en tout cas, c'est quand même frappant de voir ces chiffres-là quand même un an plus tard.
Tantôt, j'avais la ministre de la Condition féminine des Sports, Isabelle Charest, pour parler évidemment de tous ces meurtres conjugaux. À la fin de l'entrevue, j'ai posé une question sur le sport. Il y a plusieurs associations qui sont sorties, des médecins aussi, pour se plaindre, entre guillemets, là, des assouplissements sanitaires qui ne visent pas les équipes sportives, le sport en groupe à l'intérieur, les ligues. Il y avait une lettre, il y a une lettre qui a été publiée par le champion olympique Michael Kingsbury qui plaide pour des assouplissements pour les jeunes sportifs. Bon, là, je sais pas, là, tantôt on annoncerait que le reste du Québec, à part Montréal, on passerait en zone orange, donc j'imagine qu'on aurait des assouplissements. Mais moi, je dis ça puis je comprends, là. Elle sait pour vrai, je comprends que c'est difficile. Je comprends que pour les jeunes, le sport, c'est fondamental pour le développement de l'identité, du sentiment d'appartenance, de la réussite scolaire. Mais on n'interdit pas le sport, là. On interdit les sports d'équipe, de groupe. Je trouve qu'on pousse un peu le bouchon.
Ben, c'est sûr que ça se discute, mais reste quand même que ça fait un an que les jeunes, les enfants sont, tu sais, ça fait partie de leur quotidien. Moi, j'ai des enfants, toi aussi, tu sais, qui font des activités.
T'en as combien? Sportives,
culturelles. Moi, j'en ai deux, puis avec mon chum, on en a cinq en.
Ah bon?
Bref.
Tu peux comprendre.
Oui, tu sais, on fait du sport avec eux, ils vont jouer dehors, tout ça, c'est super. Mais il reste un petit bout, le sport d'équipe, le sport supervisé, puis c'est surtout qu'on permet le sport. Moi, c'est ça depuis le début que je me questionne, c'est qu'on permet le sport libre. Donc, on ouvre l'aréna, là, depuis 6 mois, un an, là, les arénas sont ouvertes à Montréal, sont ouvertes, puis on peut patiner, on peut faire tout ça, mais 12 joueurs sur une patinoire supervisée par un entraîneur avec des masques dans le visage, ben ça, c'est pas possible, tu sais. Donc, en tout cas, bref, ça fait partie de toutes les incongruités de cette pandémie. Mais là, un an plus tard, si on est pour ouvrir les restaurants, si on est pour ouvrir un paquet de choses, ben il est peut-être temps, là, tout comme on a parlé là, des cégepiens puis des jeunes à l'université, là, que c'est vraiment difficile le télétravail. Mais moi, je pense que le sport encadré, ça doit être mieux.
Mais faut, oui, mais il faudra se concentrer sur l'accompagnement des parents puis de ce qui se passe autour du sport, parce que dans les éclosions qu'on a eues dans les équipes sportives, là, dans les sports-études, plus spécifiquement, ça se passait souvent, tu sais, les parents qui transportent des sportifs après, avant les matchs. C'est vrai que tout le monde se montre excessivement discipliné, là.
Ah, ça, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être moyen d'aller à mi-chemin. Tu sais, est-ce qu'on est obligé, si on reprend là, les activités, est-ce qu'il est obligé d'avoir des compétitions? Est-ce qu'il est obligé d'avoir des matchs? Tu sais, juste de faire des entraînements, déjà, ça permettrait aux jeunes de revoir leurs amis puis de retrouver un certain encadrement. Parce que oui, on peut faire du sport, là, aller en ski, aller patiner au parc, aller glisser, c'est très bien. Mais
c'est pas pareil.
La structure, exactement. Puis, tu sais, là, je regardais, il y a des parents là, qui ont signé une lettre là, pour interdire le port du masque à l'école.
Et 2000 parents qui manifestent leur désaccord. C'est quand même, il y a même des parents ici qui vont jusqu'à dire, ben c'est bien parfait, mais moi, mon enfant n'ira pas à l'école.
Ben c'est ça. Mais ça, par contre, tu vois, moi, là-dessus, je me dis, bon, ben allons-y avec des mesures de précaution. Si on porte le masque, ça diminue la transmission, puis on peut ouvrir d'autres choses, comme par exemple le sport ou les restaurants ou peu importe quoi. Ben je me dis qu'on va dans le bon sens. Et les enfants, là, ils s'habituent, ils s'adaptent. Moi, j'ai des enfants qui portent le masque à l'école, j'en ai au primaire, j'en ai au secondaire. Puis c'est sûr que, bon, c'est un ajustement au départ. Est-ce que ça serait plus agréable de ne pas l'avoir, évidemment? Mais est-ce qu'on peut faire ce pas-là? Moi, je pense que c'est une question de santé publique. Ils disent, en plus, le variant est tellement plus contagieux. Puis tout à l'heure, la Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal le disait, là, dans les écoles, la transmission est importante. Donc, en tout cas, moi...
Oui, on va revenir par ailleurs à ce qui s'est dit à ce point de presse de la Santé publique de Montréal avec Vincent Dessoureau un peu plus tard à l'émission. Moi, je sais pas, peut-être dans la région de Montréal, j'aurais opté pour le principe de précaution. Je sais que ça fait pas l'unanimité ni que c'est pas... Je pense que c'est pas très populaire non plus, mais peut-être j'aurais prolongé la fermeture des écoles au-delà de la semaine de relâche, ou du moins jusqu'à ce qu'on prenne des décisions sur qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire des tests rapides dans les écoles où il y a des éclosions? Quand sais-je, mais on va tout apprendre ça autour de 5 heures. Elsie, merci beaucoup.
Merci. Bye.